Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fréquence Diagonale. Eh bien, aujourd'hui, rendez-vous dans le sud-ouest et plus précisément dans la capitale de l'Aquitaine, à Bordeaux, puisque nous allons aujourd'hui traiter d'un club d'Aquitaine, le club de l'échiquier bordelais au 36 rue Buan à Bordeaux, qui est géré par un passionné qui est son fondateur et président. C'est Jean Renaud, ou Renaud pour les intimes qui le connaissent plus, peut-être Renaud Lagune. Bonjour Renaud.
Bonjour Stéphane.
Alors,
merci d'avoir fait appel à moi pour te commenter donc la vie de ce club.
Oui, bah écoute, c'est un club qui compte, qui est un club phare d'Aquitaine, je crois que c'est certain maintenant, depuis le temps qu'il existe. Alors, je pense que c'est aussi intéressant de voir, dans le développement du jeu d'échecs aussi, comment, bien sûr, quelles sont l'histoire des clubs, comment ils se développent et comment ils s'organisent et comment ils gèrent leur activité. Alors, tout d'abord, dans cette première partie, Renaud, moi j'ai envie de savoir, toi qui es joueur Aquitaine depuis longtemps, voire depuis toujours, joueur d'échecs, que tu nous racontes.
1966.
Ah voilà, 1966, voilà, donc ça date, hein. Et, mais que tu, voilà, que, que tu nous racontes un peu ton histoire avec le jeu d'échecs, comment tu es venu au jeu d'échecs, quel a été ton parcours, et puis voilà, que tu nous racontes un peu tout ça jusqu'à la création
donc,
de ce club.
Mon apprentissage a commencé en 1966 quand je suis rentré à l'école normale d'instituteurs de Mérignac, où un copain m'a appris les rudiments du jeu. C'était un jeu que je refusais jusque-là. J'avais bien vu jouer aux échecs, hein, mais ça me paraissait un jeu étrange, bizarre, où des gens passaient pas mal de temps sans bouger, puis tout à coup bouger un morceau de bois étrange, là, avec des pièces bizarres qui allaient dans tous les sens. Je comprenais pas du tout l'intérêt de ce jeu. Puis ce copain m'ayant montré les rudiments du jeu, je dis, ah, mais c'est ça les échecs, quel beau jeu. Et tout de suite, j'étais pratiquement passionné, puisque le soir même de mon apprentissage du mouvement des pièces, eh bien, je faisais mes premières parties au dortoir avec ce copain-là, puis après avec d'autres copains, voilà.
D'accord, donc ça c'est à l'école en fait, à l'école d'instituteur. Donc t'es déjà...
À l'école d'instituteur, oui. Il y avait d'ailleurs dans cette école un club d'échecs, bah, je ne savais pas du tout, donc je l'ai intégré très vite, et puis ben, je suis venu partie prenante de ce club, j'ai joué, et un ou deux ans après, j'en suis devenu le président, et c'est lui qui impulsait les échecs. Il y avait à Bordeaux à l'époque un gars qui s'appelait Monsieur Guémard, qui était arbitre international, tu vois, il avait arbitré le tournoi de Monaco en 67, il avait, donc, qui venait, je l'avais contacté, il venait à l'école normale nous montrer des parties de fichiers, des parties de grands joueurs, c'était très intéressant, et voilà un peu comment j'ai pris goût aux échecs.
D'accord, et alors après tu vas intégrer cette pratique en rejoignant un club,
oui.
Un autre club.
Il faut dire que sur Bordeaux il y avait des lieux où on jouait aux échecs à l'époque, c'était le Café de la Concorde qui était Place de la République, c'était le bar du musée qui s'appelle actuellement le Connemara, qui est un bar irlandais actuellement, mais à l'époque c'était un club d'échecs, l'échiquier moderne, tu vois.
D'accord.
Alors c'était pas parce que c'était les échecs modernes dans le sens l'adjectif qualificatif moderne, non, c'est parce que son fondateur, Monsieur Moderne, c'était son nom de famille, était un dissident de l'échiquier d'Aquitaine, le club traditionnel de Bordeaux, et puis qui avait avec quelques copains monté ce club là au musée. Donc moi j'allais jouer là, j'allais jouer au Concorde, et puis je suis allé au club de Mérignac, parce qu'il y avait à la MJC de Mérignac, si tu veux, un gars qui était le président de ce club MJC, et non seulement il était le président de la MJC de Mérignac, club d'échecs, mais il était aussi président de la Ligue d'Aquitaine.
Ah, d'accord.
Il s'appelait Raymond Garcia.
D'accord.
Ça a été un gars très important dans les échecs, parce que il développait les échecs, il faisait des tas de choses. Et d'ailleurs, il cherchait à faire un championnat de organiser un grand championnat. Alors, tu vois où je veux en venir. Moi, donc, j'ai commencé à jouer 66, j'ai joué en 67, 68, 69 dans les clubs bordelais, comme dont je te parle.
Mmh.
Et puis, donc, en 69, je suis allé à mon premier championnat de France, qui avait lieu à la ville de Pau, dans le casino de Pau, où il a eu lieu d'ailleurs récemment. En 2008, en 2012, il a eu lieu deux fois encore au même endroit.
Ouais.
Et donc j'étais allé au mois d'août tout seul voir ce, et participer à ce championnat de France. À l'époque, c'était le Major B, c'était le Major A, c'était le fameux National.
Eh oui, avec déjà...
Et donc, le National du championnat de France de 69, il y avait deux ou trois joueurs bordelais, dont le jeune talentueux Michel Domens, qui était tout jeune à l'époque, hein, qui venait quelques années auparavant, d'ailleurs c'était en 64, et qu'il avait été champion de France des jeunes. Donc c'était une célébrité, à Bordeaux. Moi je ne le connaissais pas, par de nom, j'avais eu son nom dans les journaux. Donc j'ai pu le voir de plus près, un peu l'approcher. Puis il y avait Michel Saner, hein, une des figures des échecs bordelais aussi, qui jouait dans ce national. Et puis beaucoup d'autres joueurs qui sont devenus célèbres après. Il y avait le jeune Aldo Haik, qui avait 17 ans, 18 ans. Il y avait des gars comme ça, Goldenberg, des gars comme ça qui m'ont marqué. J'avais d'ailleurs vu à ce championnat une partie fantastique entre Audi Frenne et Bernard Huguet. Bernard Huguet qui avait failli devenir champion de France cette année-là.
D'accord.
Bon, bref, je peux te raconter des tas de souvenirs comme ça. Pour te dire que ça m'avait donné le goût à la compétition, ce championnat de France de 69. Et quand Raymond Garcia, dont je te parlais avant, a voulu organiser un championnat de France à Bordeaux, et je l'ai mis en contact avec le directeur de mon école normale, que j'allais quitter en 71, et il a organisé, en août 71, le championnat de France d'échecs à Mérignac, à l'école normale dont je faisais partie et où je quittais les lieux, voilà.
D'accord.
Donc tu vois un peu cette histoire-là bizarre.
Oui, c'est arrivé, disons, avec en même temps de ta de ta professionnalisation, il y a cette espèce de...
Et c'est d'ailleurs la première année, en 71, où on a regroupé Major B et Major A pour ne faire plus qu'un Open. Le Grand Open, hein, qui est devenu après l'Open A, qui est resté pendant des années, avant de faire place maintenant aux différents Open A, B, C, D, selon la force des joueurs.
D'accord. Oui. Donc une histoire déjà qu'on voit mélangée avec l'histoire des championnats de France.
Hein, oui. Alors, tu vas voir où je vais en venir.
Oui.
C'est que l'année après 72, je suis parti à l'armée. Et par bonheur, j'ai été nommé à l'armée, à l'aviation, à Aix-en-Provence.
Ah.
Où il y avait un club très dynamique. C'était le Père Maury. Le père de Claude Maury, d'ailleurs, un ami qui est resté un ami pendant des années, qui vient de décéder ici au mois de janvier. Là, ça m'a fait une énorme peine parce que je l'avais côtoyé, je le rencontrais tous les ans, voilà. Et donc j'ai intégré ce club d'Aix-en-Provence et j'ai joué avec eux toute l'année, si tu veux.
D'accord.
Dans ce club d'Aix, il y avait un gars qui s'appelait Alar Poum, qui était un très fort joueur, d'origine estonienne, qui était passé par le Canada, puis Paris, et puis qui s'était installé en Provence, et qui m'avait pris en amitié. Et j'ai bossé avec lui les échecs, et ça m'a donné, si tu veux, une autre approche du jeu, tu vois.
Plus profonde.
La compétition, tout ça.
Mmh. Oui, une approche plus profonde, plus travaillée, quoi.
Voilà, ouais. Voilà.
Bien sûr.
Et puis, donc, après mon armée passée, j'ai pris mon boulot d'instit, hein, puisque mon travail, moi, c'est instituteur. J'ai fait ça toute ma carrière. Et donc, chaque fois que j'avais des vacances, j'allais au championnat de France. C'est comme ça que j'ai fait l'Open 74 à Chambéry, où je me suis qualifié pour l'accession 75. Et enfin, j'ai réussi, en étant quatrième de l'accession 75, à jouer dans le fameux National, qui était le Graal à l'époque des joueurs d'échecs en français, qui souhaitaient tous aller jouer dans le fameux National, où il y avait entre 25 et puis 30 joueurs, tu vois, tous les ans.
D'accord.
C'était un petit peu le gratteur, mais bon, moi j'en faisais, j'étais, si tu veux, pas professionnel ni semi-professionnel, j'étais amateur.
Et là, il y avait déjà, à cette époque, déjà des joueurs connus comme Nicolas Giffard, non, sans doute, en 75.
Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, en 76, il y a eu plusieurs ex-échos au championnat auquel je participais. C'est Cheval Donné, le Toulousain, qui a eu le titre.
Ah oui, oui, ben oui, connu
donc,
aussi.
Donc j'ai fait le national en 76, ouais. J'ai fait le national en 77. Où là, le premier a été Louis Ross.
Oui, le Strasbourgeois.
Et d'ailleurs, bizarre, il était premier de ce championnat et son père dernier, 24e. Et moi, j'étais 23e, moi, petit amateur.
Oui.
Voilà.
D'accord. Et alors, après ça, il y a un moment donné, tu vas rejoindre l'échiquier d'Aquitaine. Ça va se passer
voilà,
quand
voilà.
Ça
alors, tu vas voir où je vais en venir.
Ouais.
C'est que dans ces années-là, J'étais à l'échiquier PTT à Bordeaux. J'avais quitté l'échiquier de la MJC de Mérignac pour jouer à l'échiquier PTT, qui était un club important en Rutiac, à Bordeaux, qui était dirigé par M. Giraud, qui était très dévoué et qui a fait beaucoup de boulot pour les échecs à l'échiquier PTT. Et en parallèle, il y avait aussi l'échiquier d'Aquitaine.
Oui.
Et j'ai joué après, quand l'ESPTT a fermé,
ouais.
Hein, puisque la nouvelle poste de Bordeaux venait de se créer et que les bâtiments où étaient hébergés l'échiquier PTT ont été réquisitionnés ou n'ont plus cessé d'abriter le club d'échecs. Donc j'ai rejoint l'échiquier d'Aquitaine qui était justement passé à l'échiquier moderne et qui était... L'échiquier moderne avait disparu, c'était l'échiquier d'Aquitaine qui était abrité rue Montbazon, là, au-dessus du bar du musée.
Et à côté de la mairie, juste à côté de la mairie, c'est ça ?
Oui, à côté de la mairie, mais voilà, il est là, ce bar du musée. Enfin, ce Connemara maintenant.
Ouais.
J'ai rencontré un joueur qui était très important pour moi à l'époque, c'était Boucanus, qui arrivait de Paris,
ouais.
Qui était un compétiteur dans l'âme, lui, qui avait d'excellents résultats. Il a mené Bordeaux en demi-finale de la Coupe de France avec des bons résultats, matchs d'équipe, etc. Donc j'ai joué avec eux. Il y avait aussi des gens qui ont marqué les échecs bordelais. Il y avait Patrick Sargos qui malheureusement lui aussi est décédé il y a déjà un an et demi. Et puis d'autres joueurs. Voilà.
D'accord. Et alors après ça, tu vas gagner aussi des titres.
Ce qui s'est passé, c'est que cet ASPTT,
oui.
Étant terminé, un des joueurs a dit « Tiens, il y a un club cheminot, peut-être qu'on pourrait les renforcer et puis les rejoindre. » C'est ce qui s'est fait. Et à partir de 76-77, l'ASPOM est devenu un club important à Bordeaux. Et moi, j'ai intégré ce club, l'ASPOM. Qui est le club cheminot de Bordeaux, qui est près de la gare de Bordeaux.
Oui, qui existe toujours. Hein,
qui existe toujours, bien sûr. Oui. Et j'ai rejoint ce club en compagnie de quelques amis qui ont marqué les échecs bordelais. Je pense à Michel Domens, bien sûr, qui revenait, lui, d'un séjour au Canada de 2 ans pour son boulot. Hein. Et puis Philippe Collet, qui lui aussi... le regretté Philippe Collet, un ami de longtemps, qui est décédé en 2010, lui, qui a impulsé beaucoup de choses dans les échecs bordelais. Donc, voilà, l'ASPOM, j'y ai joué, moi, jusqu'en 1990-91.
Voilà, et tu as gagné, alors tu peux nous dire quand même, tu as aussi gagné des titres. Bon, tu as fait le national, donc ça, je crois que c'est important
oui,
de le souligner.
J'ai fait 3 années le national,
mais,
comme on a vu.
Mais tu as gagné des titres.
Et ensuite, j'ai fait de nombreuses fois l'accession.
Ouais, des titres de champion d'Aquitaine.
Maintenant, les Open Arch, tout ça.
Ouais,
voilà,
oui. Mais tu as gagné des titres de champion d'Aquitaine aussi.
Oui, j'étais champion d'Aquitaine une année, en individuel, oui. Et puis champion de Bordeaux il y a quelques années de ça. À l'époque, on faisait un champion de Bordeaux avec les meilleurs joueurs ou les joueurs les plus motivés parmi ceux qui étaient les plus représentatifs de Bordeaux. Et j'ai eu le bonheur, une fois, de faire un sans faute, de faire 9 sur 9 dans ce championnat. C'était, je ne sais plus, dans les années de gloire, dans les années entre 75 et 80, dans ces années-là.
Ouais, d'accord.
Ça remonte.
Ouais. Et alors après, on arrive donc effectivement après ce parcours, donc on voit assez riche déjà, où tu vas côtoyer les meilleurs joueurs de France, donc au national. Tu vas aussi développer les échecs, ne serait-ce que par ta pratique et ton activité à Bordeaux. Et puis dans les années 90, tu vas avoir une sorte de révélation puisque tu vas donc décider de créer ton club.
C'est un petit peu plus compliqué que ça.
Ouais.
Il se trouve que dans les années 80, au tout début des années 80, un jeune enthousiaste qui s'appelle Eric Le Riche, qui est toujours très passionné par les échecs, nous a rejoint à la SPOM. Et est arrivé aussi un gars du Nord qui s'appelait Jean-Pierre Bollmann. Qui malheureusement lui est décédé en 98, ouais, ça fait déjà quelques années. Et donc avec ces 2 ou 3 joueurs, plus Xavier Delebar, un Rochelet qui faisait des études à Bordeaux, et on a décidé de créer une école d'échecs. Alors on est allé voir la mairie de Bordeaux, qui nous a prêté des salles dans ce qu'on appelle l'Athénée municipal, le Saint-Christoli, et on a créé le fameux, la fameuse école d'échecs qui s'appelait Athéna, hein, Athéna, la déesse de l'intelligence. Donc, on donnait des cours d'échecs aux gamins, aux adultes, à plein de gens, dans cette école d'échecs. Cette école d'échecs a duré 3 ans, de 83 à 86.
Oui.
Et cette école d'échecs, malheureusement, s'est arrêtée en 86, c'est l'année où mon père est décédé. Donc, il y a eu des petits... J'ai pas pu être libre, les copains ne voulaient pas trop continuer, donc on a arrêté cette école d'échecs. Mais je m'étais dit, si un jour j'ai un petit peu d'argent, je ferai quelque chose pour les échecs, parce que j'en avais quand même marre que l'on joue aux échecs dans des salles de bistrot, ou dans des maisons de quartier, enfin, tu vois, des endroits où les échecs n'ont pas un lieu à eux.
Oui, tout à fait.
Ouais, où les jeux sont dans des armoires, on les sort le jour de la réunion, on les rentre le soir même, et puis voilà. Donc je m'étais dit, si c'est possible, je ferai ça. Et donc, suite au décès de mon père, j'ai eu un peu d'argent de famille, et j'ai donc, je me suis mis en devoir, au bout d'un ou deux ans où j'ai géré mes affaires personnelles, de me mettre à la recherche d'un lieu où implanter un club d'échecs.
Et
c'est comme ça que j'ai découvert en 91 un petit immeuble d'angle qui est à la rue Buant, et que j'ai acheté, aménagé, fait des travaux pour créer un club d'échecs.
Voilà, alors voilà. Ça, le lieu, donc ça c'est très, c'est important,
voilà,
parce qu'on arrive à cet endroit-là, donc on voit l'histoire, c'est pas arrivé non plus tout seul, on voit bien
qu'il y a un... C'est pas arrivé tout seul, tu vois, voilà. Il faut dire que quand j'étais à la SPOM, à l'échiquier d'Aquitaine, pendant un ou deux ans, je suis à l'échiquier d'Aquitaine, à la SPOM après, du fait que je sois instite, tu vois, le mercredi, j'allais dans ces clubs, ou le samedi après-midi, et j'entraînais des jeunes, je repérais des jeunes joueurs qui me semblaient avoir un petit peu de talent, ou d'autres qui n'avaient pas forcément du talent, mais qui aimaient les échecs et qui étaient enthousiastes. Et je les faisais jouer, j'essayais de les faire progresser, je leur donnais le goût du jeu. Et c'est comme ça que j'ai eu cette envie de partager, tu vois, que j'ai toujours eu un enseignant. C'est
bien
avant
sûr.
Tout ça, un gars qui partage, qui n'est pas vide de son savoir, tu vois.
Alors, on voit que ce lieu a été pensé par un joueur d'échecs, parce qu'évidemment, quand on y... Moi, je le connais, bien sûr, ce lieu, j'y suis allé plusieurs fois. D'abord, on voit qu'il y a trois salles. Il y a une salle de jeu principale, il y a une salle de jeu un peu d'analyse, et puis il y a même une cave où on peut aller jouer tranquillement. donc c'est un jeu qui est magnifique, et on peut même avoir donc trois espaces cloisonnés. Et c'est rare, c'est pour ça que je comptais vraiment passer par cet échiquier bordelais, ce 36 rue Buant, pour faire un tour en Aquitaine, parce qu'il n'y a pas beaucoup de clubs en France, très peu. Je ne sais même pas d'ailleurs lesquels seraient exactement d'autres, il y en a certainement, mais très peu, qui sont comme ça propriété d'un joueur d'échecs ou propriété du club. C'est souvent des salles qui sont soit transitoires, comme tu disais, des bars, des choses comme ça, ou bien des salles prêtées par les mairies et qui, le jour où les majorités changent, sont changées aussi. Donc ça, c'est dommage, bien sûr, souvent. Donc là,
si tu veux, mon idée, c'était que les joueurs soient vus de la rue.
Ouais.
Donc j'ai fait des travaux. J'ai fait faire des travaux, on a cassé les murs, on a mis des grandes vitrines, et les gens nous voient de la rue.
Si oui.
À travers les baies vitrées, on nous voit depuis la rue, on voit les joueurs d'échecs. Au fil de mes tournois, j'avais collecté un certain nombre de photos de joueurs, de décorations, que j'ai utilisées après pour le club. Et puis j'ai mis tout ça au service de l'association que j'avais créée à l'époque avec Philippe Collet, avec Denis Garrido, avec Éric Le Riche évidemment, et puis Vincent Mazot, voilà. Et on avait créé ce club qui s'appelait Bordeaux Échecs et qui restait donc dans ces lieux pendant quelques années. Bien sûr, une association n'ayant aucun moyen financier, j'avais pourvu le club de tables, de chaises, d'échiquiers, de pendules, de livres de ma collection personnelle, de bouquins, etc. Plein de choses, si tu veux, voilà, pour que le club vive.
Oui, tout à fait.
Le club a vécu pendant quelques années. Moi, j'avais mon boulot d'instit, je continuais mon boulot d'instit. Et puis, j'y allais le mercredi, le samedi, je jouais en équipe le dimanche, voilà. Et c'était Éric Le Riche qui, lui, enthousiaste, passionné autant que moi, tenait le club sur ses épaules, le gérait avec quelques amis. On avait quelques amis bénévoles qui nous aidaient évidemment dans cette entreprise. Donc le club, partant de 5e division, est passé en 4e, 3e, rester en troisième, puis passer en seconde, puis passer en première division à l'époque, qui était le top. Hein. Il n'y avait pas encore le top 12 et tout ça. Et donc, c'était pas mal. Voilà. Et on avait parallèlement une école d'échecs de jeunes. On a entraîné des jeunes. C'est comme ça qu'on a formé deux champions de France. Xavier Bedaer, qui était champion de France pupille. Et puis, évidemment, le plus connu, Mathieu Cornette.
Et oui.
Qui est devenu maître international, grand maître, champion de France, minime, cadet, junior. Sur les voilà. Trois années majeures ouais. des jeunes.
Donc voilà.
Ça n'avait été jamais fait en France, alors.
Voilà. Voilà une des grandes réussites du lieu, quoi. Hein.
Donc, bien sûr. Et tant d'autres jeunes qui sont devenus de très forts joueurs. Hein. Je te parle là que des deux plus qui ont été les plus célèbres.
Bien sûr.
Il y en a d'autres qui ont été d'excellents joueurs et qui continuent à avoir le plaisir de jouer.
Ouais. Alors après, bien sûr, il y a eu un changement de club. Il y a cet premier club, en fait, l'association a décidé
ouais,
de changer
d'adresse. Si tu veux, tu sais, dans les clubs d'échecs, il y a toujours des problèmes
oui.
De relations entre joueurs, entre gens qui veulent avoir des responsabilités, puis les abandonnent, puis les reprennent, etc. C'est toujours compliqué, tu sais, les associations, pas
oui,
que dans les
sûr.
Échecs. Hein. J'ai eu des échos sur d'autres associations. Ce qui fait que il y a le classement Elo qui existe hein, aux échecs, mais il y a le fameux classement Ego hein,
ça, qui va avec souvent.
L'ego qui n'est pas tout à fait le reflet de ce qu'ils espèrent être. Bon, bref, il y a eu des petits conflits, certains ont dit, mais maintenant qu'on se développe, le club est trop petit, et donc j'ai pris sur mes deniers personnels. Pour agrandir le club, tu parlais des trois salles, mais à l'époque de Bordeaux Échecs, et puis il n'y avait que la première salle qui donnait sur la rue Buant.
Ouais.
J'ai donc investi pour acheter le bas d'immeuble à côté où j'ai fait faire des travaux pour doubler vraiment la surface du club, parce que les esprits chagrins voulaient déménager le club, etc.
Ouais.
Bon, et puis après, bien sûr, le club a continué. Des ennuis financiers, des problèmes de personnes sont intervenus, et puis une nouvelle majorité a décidé de déménager l'association.
Oui, et toi, tu as recréé l'association.
Alors, moi, j'étais un peu chagriné tout ça, parce
oui.
que j'avais créé le club pour sortir les échecs de leur misère, des salles partagées, des arrières-salles de bistrot,
oui.
et ceux qui déménageaient, évidemment, l'ont reconduit dans une maison de quartier où les échecs sont une activité comme d'autres, partagée avec d'autres activités.
Oui.
Il y a des gens de très bonne foi hein, qui ont fait ça de très bonne foi, qui pensaient sauver le club, mais moi je leur ai dit, si vous sauvez le club, bien sûr, moi je referai un club dans ce local qui mérite vraiment, les échecs méritent ça, quoi, avoir un local avec vue sur la rue et tout.
Oui.
Et c'est comme ça qu'en 2004, j'ai recréé Ex Nihilo, l'échiquier bordelais.
Voilà, donc il y a eu changement d'association et finalement, bon, en fait, il y a une continuité.
Un changement de lieu pour les échecs bordelais. Si
voilà, mais il y a une continuité puisque le lieu, bien sûr, oui. est le même et puis
oui.
beaucoup
oui.
de joueurs ont décidé de rester dans le lieu. Bon, voilà, donc il y a
oui,
eu.
Quelques-uns, très peu en fait.
Au début, oui.
En fait, le déménagement s'est effectué au mois d'octobre, c'est-à-dire au début de la saison. Et moi, je suis reparti vraiment à zéro avec 5-6 fidèles. Hein. La première année, nous étions 30 licences A et 5 licences B. Hein, et on a redémarré en National 5
voilà.
avec une seule équipe.
Et aujourd'hui, donc, l'échiquier bordelais.
Et puis, dix ans après, l'an dernier, nous étions... pas le nombre exact, je peux te le dire. Faudrait que je recherche dans mes notes.
Oui.
L'année 2012-2013, on était 132 licences A et 167 licences B.
Voilà.
Donc on est redevenu dans ce lieu le club le plus important d'Aquitaine avec le club Henri IV de Pau.
Voilà, donc très bien. Alors on arrive à peu près là au bout de l'histoire, peut-être on finira un peu après. On va d'abord faire une petite pause si tu veux bien, Renaud.
Pour parler l'histoire de ce lieu, du club. Voilà.
Une pause musicale, et puis dans la deuxième partie, on va parler maintenant de l'actualité de ce club maintenant, qui a. Voilà, de ce lieu et de ce club, et aussi un peu de l'Aquitaine aussi, de son actualité, de ce qui se passe dans la saison et comment ça s'organise le jeu d'échecs sur Bordeaux-Aquitaine. Juste après une première pause, on va faire une pause musicale. Alors, est-ce que tu sais comment sont les musiques sur Fréquence Diagonale?
Mais pas encore, mais je vais l'apprendre.
Voilà, elles sont sous licence libre, ce sont des musiques libres, voilà. Donc,
d'accord.
On se retrouve juste après cette première pause musicale.
Oui, à bientôt. Thank you.
Et nous voici de retour donc sur Fréquence Diagonale, toujours avec Renaud Lagune pour parler du 36 rue Buhan à Bordeaux, de l'échiquier bordelais, ce club qui anime le jeu d'échecs, non seulement à Bordeaux, mais aussi en Gironde et en Aquitaine. Alors Renaud, bon, on a vu l'histoire, hein, c'était passionnant à suivre. Moi, il y a des choses que je savais pas. Je savais pas que tu avais fait autant de nationaux que ça.
un vieux routier,
mais oui, bien sûr. Et tu as côtoyé dans le national les plus grandes légendes du jeu d'échecs, hein, les Nicolas
Giffard.
Oui,
je crois que j'ai dû jouer assis en face, hein, en condition de jeu.
Ouais.
Entre 20 et 30 joueurs qui ont porté le titre de champion de France.
Eh oui, donc c'est, ben, ça fait, ouais, ça fait un beau palmarès.
Ouais. Ouais.
Alors, à noter aussi que tu es aussi passionné, pour clôturer sur cette histoire-là, mais tu es aussi passionné, comme moi d'ailleurs, au-delà du jeu d'échecs lui-même, mais aussi par l'histoire du jeu d'échecs, puisque dans ton club, on peut voir une galerie de portraits des très grands champions d'échecs. Hein. On va retrouver des Kasparov, les Karpov, les Timan, les Judith Polgar, oui, affichés dans ton club.
Donc sur tous les murs du club, il y a des photos des grands champions actuels et passés.
Voilà, un club qui est entièrement dédié au jeu d'échecs, et ça, c'est vraiment un des rares endroits en France. Il y en a d'autres, bien sûr, mais par rapport au nombre de clubs, c'est pas quand même, oui, pas une majorité. Oui. Et oui, on en verra très certainement d'autres sur Fréquence Diagonale. Mais alors, maintenant, on va parler de l'actualité, donc de la saison, hein, de l'échiquier de Bordelais. Alors, comment ça se passe? Je suppose qu'il y a bien sûr une activité de formation auprès des jeunes dans les écoles, par exemple. Je suppose qu'il y a la participation, oui, à des championnats par équipe, mais aussi des tournois, oui, organisés, oui, ou des tournois, oui, auxquels les licenciés sont conviés à participer, comme bien sûr les championnats départementaux ou régionaux, voire les Open locaux, hein, puisqu'en Aquitaine, on a quand même un certain nombre d'Open, oui, aussi, voire de grands événements.
Oui, voilà. Alors, tu vois, depuis qu'on a dynamisé tout ça, ces échecs ont pris un petit coup de fouet après cette dynamique créée dans les années 92-93, quand on a lancé le premier club Bordeaux Échecs. Il se trouve que les autres clubs qui étaient à Bordeaux, la SPOM et puis l'Échiquier d'Aquitaine, ont de leur côté essayé de dynamiser les échecs. Les échecs en ont bénéficié. Je crois pas que pour la rue Buhan, hein, les échecs en général. Alors, donc, pour le fonctionnement du club, actuellement, notre club a deux salariés. Un maître international qui est salarié depuis 98, pas depuis 98, excusez-moi, depuis 2008.
Oui.
Depuis 2008, c'est le maître international Jean-Pierre Boudre,
oui,
qui nous a rejoint et qui donne des cours au club et dans les écoles et collèges de la région, voilà, de Bordeaux et de la Cube. On a aussi une deuxième salariée qui est ma compagne, Françoise Hessler, qui m'a encouragé en 2004, lorsque je voulais peut-être baisser les bras, arrêter, faire autre chose, jouer que pour ma pomme, comme un fond de temps d'individualiste et de joueur d'échecs qui ne partage pas. Mais bon, elle m'a encouragé, elle m'a aidé, on a décidé de remonter le club d'échecs avec un jeune talentueux que j'avais formé au club qui est David Bazar, qui pendant une dizaine d'années a gagné tous les rapides qui avaient lieu sur Bordeaux et dans la région.
Oui.
Et qui avait plus de 2600 et quelques en rapide, en classement rapide, tellement il gagnait tout. Et puis qui était autour de 2002-2003, hein, au point de vue le parti long, un bon joueur, quoi, qui vit en Chine maintenant, tiens d'ailleurs. Donc avec David et puis Jacques Rabascal, qui était un ami de toujours, et puis le fameux Pierre-Olivier Thibault, et qui était déjà présent en 92 lors de la création de Bordeaux Échecs. Donc Pierre-Olivier Thibault, puis Françoise, Jacques, David et moi avons recréé l'échiquier bordelais en 2004.
D'accord.
Donc Françoise m'a aidé pendant les deux ou trois premières années où elle faisait du bénévolat, puis ensuite on lui a trouvé un contrat aidé, puis ensuite on a pérennisé son emploi pour une vingtaine d'heures par semaine maintenant. Pour faire fonctionner le club, c'est elle qui fait la gestion, le secrétariat, l'entretien des locaux aussi, bien sûr, le côté ingrat. Et puis le contact avec les parents, les familles, le suivi des dossiers, avec les dossiers de subvention, etc., etc.
Donc voilà. Elle est ouverte, ça veut dire que ce club est ouvert tous les jours, en fait, donc?
Alors, ce club est ouvert tous les jours, de 14h30 à 19h30, plus deux soirées par semaine, puisque on fait le mercredi soir systématiquement une soirée analyse avec Jean-Pierre, moi et quelques joueurs qui se dévouent pour analyser les parties, soit les parties jouées en compétition le dimanche si on a fait des compétitions, soit pour analyser des positions des parties, etc.
D'accord.
Et puis le vendredi soir, en général, c'est le lieu des tournois rapides. Voilà.
D'accord, donc ça c'est important parce qu'évidemment on a envie aussi
de faire des tournois.
Pour
la vie du club, tu vois.
Bien sûr.
Donc ce club a les trois dimensions. Première dimension, loisir. N'importe qui aime les échecs et qui ne veut pas forcément faire la compétition trouve un lieu pour jouer.
Oui.
Voilà, l'après-midi. Quelqu'un qui veut faire la compétition intègre les équipes, prend sa licence fédérale, voilà. Et puis la dimension école d'échecs.
Oui.
Alors, école d'échecs, on a créé, si tu veux, une école d'échecs. On a obtenu le label formateur, le club formateur. Et puis, on intervient avec le salarié et avec 3, 4 ou 5 bénévoles qui vont dans les écoles, collèges. Voilà, on fait des animations intramuros, bien sûr. C'est-à-dire des cours à des enfants entre 30 et 40 chaque année. Qui prennent des cours par petits groupes de 2, 3, 4, 5 ou 6 avec un animateur le mercredi après-midi, le vendredi soir, le samedi après-midi.
Oui, et je crois que vous suivez
voilà,
aussi.
L'école d'échecs intramuros, si tu veux, et puis extramuros, on va dans une dizaine d'écoles primaires, 7-8 collèges, 2 lycées, des établissements d'adultes handicapés, voilà, des choses comme ça.
Et vous suivez aussi des compétitions par Internet, hein. Vous avez
on a un vidéoprojecteur au club,
ouais.
Et on fait quelquefois des séances quand il y a des tournois importants, par exemple quand il y avait le match Carlsen-Anand ou quand il y a des tournois majeurs, des championnats, on les suit sur le net et on les projette sur l'échiquier mural. On n'a pas l'échiquier mural sur le grand écran qu'on déploie dans la salle. Et puis, on commente les parties et on suit les parties en direct. Oui, voilà, on fait ça aussi en vidéoprojection.
Ça, c'est bien parce que ça permet de suivre ça.
On
avec
fait ces trois choses-là.
Ouais. Voilà. Et alors, comment ça se passe au niveau des équipes? Alors, vous êtes engagé dans quel championnat par
alors,
équipe?
Alors, actuellement, on est en National 2.
Oui.
On était en National 1 il y a 2 ans. Et d'ailleurs, on avait renforcé notre équipe. On avait le grand maître Spraguette qui jouait avec nous et qui est d'ailleurs toujours licencié au club, qui joue de temps en temps avec nous, parce que par amitié en fait, parce qu'il trouvait enthousiasmant ce que j'avais créé à Bordeaux, ce club ouvert sur la rue, tout ça, puis il aimait bien la ville de Bordeaux, la région, et puis cet esprit là qui était insufflé dans le club. Donc le grand maître Spraguette, on avait le grand maître Prié qui a joué avec nous, on avait le maître international Seret, Jean-Luc Seret.
Mm-hmm.
Voilà, on avait une belle équipe hein, quand on est monté à National 1, mais on n'a pas pu se maintenir de peu, bon, tout le monde n'a pas pu jouer en même temps, quelques petits malheurs comme il y a dans des équipes, on est redescendu à N2, et actuellement on se maintient en N2 pour l'équipe phare du club. Après
d'accord.
On a une National 3.
Oui.
Après, on a une nationale 4 et après, on a une régionale.
D'accord.
Et
donc
puis,
vous êtes...
bien sûr, on a notre équipe féminine.
Oui.
Une nationale 1 féminine.
Ah, mais quand même, oui, d'accord.
3-4 ans qui se maintient. Mmh. Voilà, malgré des départs ou des arrivées selon les années, on est en nationale 1 féminine.
D'accord. Donc avec aussi une dimension féminine du club.
Oui, on développe les échecs féminins. On a pas mal de filles qu'on a dans les écoles, hein, qui viennent au club et qui jouent pour le club.
D'accord. Est-ce qu'on a une idée du nombre de filles qui jouent
à peu près 10%.
Ouais, bon.
En gros, c'est 10% de nos membres.
D'accord. Alors, à noter...
D'ailleurs, dans les quotas nationaux, c'est à peu près ça.
D'accord. À noter que tu parlais de ouais. Kevin Spraguette, le grand maître international, mais enfin, il faut quand même rappeler qui est Kevin Spraguette. C'est un grand maître canadien au départ. Et qui
ah
est...
oui, 7-8 fois champion du Canada, 3-4 fois champion du Commonwealth, et un gars d'une humilité incroyable,
oui.
Très gentil, prêt à jouer avec... quand il passe au club, quand ça lui est arrivé de venir, des gens qui ne le connaissent pas lui proposent une partie, sans problème, il joue avec eux.
Oui.
Ça déballait sa science, ni quoi que ce soit, il les encourage,
oui.
Il leur montre leur truc.
Oui, et puis il a été.
Il est très gentil, qui passe très bien avec les gens.
Et
comme beaucoup de véritables champions, Ouais. Il n'a pas la grosse tête.
Oui, puis
il
non,
est
mais
vraiment
c'est...
très gentil.
Et t'as
c'est
oublié...
pour ça qu'on reconnaît un véritable champion.
Oui, mais t'as oublié de dire que c'est aussi il a
ouais.
été candidat au titre mondial, quoi. Je veux dire, c'est...
Il a été dans les 8 meilleurs mondiaux,
et oui.
candidat en 85 à Montpellier.
Et oui.
Et il a été, je crois, quart de finaliste. Hein.
Ouais, c'est
il
ça.
Il a passé le premier tour
ouais, ouais.
en battant un Russe et il a perdu contre un autre Russe au deuxième tour.
Ouais, ouais, donc c'est pas
notre. Je ne sais pas si c'est contre Youssoupov ou Arno. Ou Sokolov qu'il a perdu, il a battu un des deux, je ne sais pas exactement sa carrière, mais c'est à peu près ça. Quoi.
Voilà, il a joué dans les sommets inaccessibles.
Ah hein, oui, je... c'est un des 8 meilleurs mondiaux quand même,
ouais.
il a été en tout cas.
Ouais, ouais.
Et il est actuellement un joueur très performant, hein. Il continue
ah, bah, oui,
à jouer
oui.
beaucoup dans l'année,
quand on a
donné des cours. C'est un passionné, lui aussi, des échecs. Hein.
Oui, parce que quand on a joué à ce niveau-là, voilà, donc voilà un grand, grand ouais. joueur, encore un grand, grand joueur qui te
bien
rejoint
sûr.
Finalement, Renaud, sur ton parcours. Alors, donc,
oui,
ça,
oui,
ça, ça,
oui.
ça en fait beaucoup. alors, sur l'échiquier bordelais maintenant, parlons, on a parlé donc de l'activité dans les écoles, donc très, très importante, avec en appui
oui,
deux,
oui.
deux salariés, dont un maître international, Jean-Pierre Bourdre, tu nous l'as dit, d'autres titrés qui sont aussi membres du club et qui y participent, donc Yvin Spaguette.
Oui.
Tu as parlé de cette activité dans les écoles, très importante, bien sûr, c'est la base, bien sûr, qui permet de
oui,
faire
oui.
découvrir le jeu d'échecs. Tu as parlé des équipes, dont une féminine, une équipe féminine, membre de la nationale 1 française, donc au plus haut niveau français. Et puis.
Notre équipe jeune est en nationale 3.
Oui. Ah oui, les jeunes
aussi. En nationale 2 il y a 2 ans.
Oui.
Et puis, on a eu des départs, des jeunes qui sont devenus un peu plus âgés. On avait. Mathieu Ternot, on avait Ezra Kirk qui est reparti en Angleterre maintenant,
ouais.
Et qui je crois vient de faire une norme de MI ou une ou deux normes, qui a été lui aussi plus ou moins formé au club, hein, qui a passé des heures sur les sièges du club de l'échiquier bordelais à progresser avec notre école d'échecs. Voilà.
D'accord. Alors, est-ce que
Ternot, il fait des études à Grenoble maintenant et qui joue pour Grenoble cette année.
Oui.
L'an dernier, il faisait des études à Lille, il jouait pour Lille. Non, il a encore joué avec nous un petit peu l'an dernier quand il pouvait. Il venait, il fait que 2 ou 3 matchs en année.
D'accord.
Voilà.
Et alors, est-ce que
ouais.
tu pourrais nous parler aussi de maintenant des tournois donc qui sont joués par les membres du club, du coup, des tournois surtout disons régionaux. Hein,
alors voilà. Notre club, si tu veux, on a des grandes pôles dans l'année. On fait bon notre tournoi intérieur comme beaucoup de clubs qui
ouais.
est ouvert à tous les joueurs du club hockey, ça c'est qui est réparti sur les 9 mois entre octobre et puis juin, tu vois.
Ouais.
Ok. Ensuite on a organisé cette année, on s'est lancé dans l'organisation d'un tournoi fermé qu'on a organisé à la Toussaint.
D'accord.
Et puis on va le reconduire d'année en année.
De
on
combien...
a fait aussi un petit open sur 2 jours qu'on a appelé l'open d'hiver, qui s'est fait sur un week-end juste avant Noël.
Ben, oui.
Le jour d'hiver, d'ailleurs, le 23 ou le 22 décembre, 22-23, un truc comme ça.
Alors, tu es passé un peu vite, là. Tu nous parles d'un tournoi fermé. Alors, j'aimerais que tu nous détailles à combien...
Je te parle des open qu'on organise, des tournois qu'on organise dans le club.
Hein. Oui, oui, mais pour le tournoi oui. fermé dont tu nous parles. Parce que qui dit tournoi fermé aux échecs dit possibilité de normes, ce genre de choses, non, c'est ça?
Oui, mais là, c'est des tournois fermés par niveau.
D'accord.
C'est-à-dire les joueurs entre 2000 et 2002, ou des
D'accord.
joueurs entre
D'accord.
1800 et 2000.
D'accord.
Tu vois, on avait vu que certains clubs faisaient ça et ça nous a bien plu.
D'accord, d'accord.
Réservé à 10 joueurs.
Oui,
tu vois,
d'accord.
Qui veulent progresser dans leur classement, ou si on arrive à faire un tournoi de maître, ce qu'on envisage de faire l'an prochain, pouvoir faire une norme.
D'accord, voilà. Très bien, d'accord, c'est sur
Donc
cette
là,
idée-là.
Donc là, on a commencé ça cette année,
oui.
et puis l'an prochain, on va le reconduire.
D'accord. Très bien.
On a fait donc un grand open d'hiver là où on a eu 67-8 joueurs sur un week-end.
Oui.
Et puis on a notre traditionnel open de partie rapide adulte, enfin adulte et jeune, puisque open quoi, qu'on fait sur un dimanche une fois dans l'année, en général au mois de janvier.
D'accord. Donc
on
ça,
a
c'est...
aussi un traditionnel open rapide jeune qu'on fait au mois d'avril dans une salle de Bordeaux.
D'accord. Donc un tournoi open
ouais.
En janvier, un tournoi open en avril. De rapide
oui, pour les jeunes,
voilà.
Les jeunes, spécial jeunes, oui.
Et puis des tournois fermés dédiés pour le
oui,
niveau,
oui.
pour se progresser.
Oui, oui,
alors,
voilà la vie du club, si tu veux, pour l'organisation des compétitions,
donc,
hormis
ouais.
les équipes dont on parlait avant. Quoi.
Voilà, très bien. Donc, ça, c'est les tournois gérés par le club. Alors, au-delà, oui. les tournois gérés par les autres clubs du département, voire pour l'Aquitaine, est-ce que tu es. Quels sont les grands événements
à la fameuse Coupe Loubatière, à la Coupe 2000. À la Coupe de France, tout ça, hein, avec des heures ou des malheurs, hein, avec
oui.
des bons moments ou des mauvais moments, mais ça, c'est la vie du sportif, quoi. Voilà.
Oui,
ouais.
d'accord.
Et puis, les autres clubs sont dynamiques aussi, hein, font des activités. Actuellement, sur Bordeaux, il y a 4 clubs. Bon, nous, il se trouve qu'on est le plus important point de vue nombre, mais les autres se développent aussi, ont des bénévoles actifs à ne pas négliger. Hein. Actuellement, un club qui est en train de prendre dimension, c'est le club AGJA à Codéran. Il y a aussi l'ancien Bordeaux Échec qui continue sa route dans sa maison de quartier. Et le plus sérieux, qui est évidemment l'ASPOM, pilier depuis des années, depuis 77, lui, hein, qui a pérennisé avec l'ancien président de la Ligue, Salette, qui va redevenir, on pense, président de la Ligue, qui est très dévoué pour les échecs aussi, plus toute une équipe autour de lui. Donc il y a d'autres clubs qui développent les échecs. Hein,
bien sûr. Alors est-ce que tu peux nous parler justement
d'échecs reportés que sur mes épaules, ça ne suffirait pas.
Bien sûr, ça ne suffirait pas.
Mais beaucoup de joueurs, de gens...
Est-ce que tu peux nous parler des Open organisés justement par les autres clubs dans la région? Je crois qu'il y a Créon qui organise des Open rapides et des...
Bien sûr, il y a aussi des clubs hors... Là, je t'ai parlé des 4 clubs, l'agglomération bordelaise.
Oui.
Mais dans notre département, il y a des clubs actifs comme le club de Créon,
oui.
Comme le club de Libourne, un petit peu moins maintenant, mais qui a été une certaine époque très actif. C'était l'époque où son président était Vaupré. Francis Vaupré, qui était quelqu'un de très important dans les échecs aquitains, puisque c'est lui qui a vraiment développé la dimension jeune et compétition jeune. C'est lui qui a remis au goût les compétitions jeunes dans le département.
Oui, d'accord. Et alors, est-ce que...
Il faut dire, tu sais, que dans les années 60... 80, je veux dire, on a créé... Entre 80 et 90, ont été créés en France les fameux CDJE, Comité départemental du jeu d'échecs.
Oui.
Et moi, à l'époque, j'avais compris l'importance de cette chose-là, et j'avais insisté pour qu'on élise... Alors moi, j'avais beaucoup de choses à faire à ce moment-là, je n'avais pas voulu être président du premier, mais c'était un copain qui était devenu président du premier CDJE, qui s'est bien développé, et ce CDJE maintenant, qui est présidé par un copain qui est licencié dans notre club, François Merlet, qui est licencié dans notre club ici, Échiquier Bordelais, bien, impulse et développe vraiment les échecs pour les jeunes en organisant le championnat de Gironde des jeunes, le championnat de scolaire.
Alors, c'est quelle date, ça?
On est pas loin, en ce moment, de battre les records des départements français, si tu veux.
Oui, oui, alors justement, oui. Alors, c'est quelle date où ça se passe, hein? C'est à quelle date ça se passe?
Ben, en général, c'est en décembre ou janvier, ces championnats. Hein.
D'accord. Et le dernier a eu combien de... Je crois qu'il y a eu un record. Hein,
Le dernier, il y avait 425 chez les scolaires, tu vois.
Oui, c'est beaucoup.
Ouais, c'est... Participants.
Ouais.
Et puis au championnat de Gironde, il y avait aussi un grand nombre, je ne sais plus combien, mais un très grand nombre de participants jeunes. Hein.
Oui, parce que là, il faut des salles quand même assez conséquentes hein, pour accueillir ce monde-là.
Oui, oui, mais le club à qui le CDJE donne l'organisation, se débrouille pour trouver une salle. Et puis tous les clubs aident. Hein. Chaque club envoie des bénévoles. Pour participer.
D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous dire aussi les dates de ces autres grands événements organisés par les autres clubs? Là, tu as donné les tiennes aussi et celles de maintenant du CDJE pour les jeunes. Bon, mais les dates pour les Open rapides, je crois que le Créon organise un Open rapide et aussi un Open international.
Le Créon organise un Open au mois d'août.
Au mois d'août.
Fin juillet, début août. Toujours à cheval sur la dernière semaine de juillet, première semaine d'août.
Oui.
Un Open qui en est à sa 25e année, tu vois, qui a été pérennisé.
Ben oui.
Et qui est un Open très important dans la région, très très important.
Et oui, oui, donc ça c'est l'Open international de Créon. Je crois qu'il y a Naujac aussi, il y a un Open...
Naujac, bien sûr.
Hein?
Naujac, petite bourgade du Médoc,
oui.
Qui au départ n'avait aucune vocation échiquienne, a eu la chance de voir arriver sur son territoire un maître international d'origine roumaine, Julius Hermas, qui avait épousé une ancienne championne d'Allemagne, Rieke Wöhler, et qui ont créé quelque chose qui est unique en Europe, je pense. C'est un camping d'été près de la côte atlantique, là, hein, dédié aux échecs, où il y a tout l'été des activités d'échecs, des tournois. Ça commence d'ailleurs par le traditionnel tournoi de Naujac, qui a lieu fin juin, début juillet, depuis beaucoup d'années. Et tout l'été, des activités dans ce camping, où il y a aussi un petit magasin de vente par correspondance ou de vente sur place de livres, d'échecs, de pendules d'échecs, matériel d'échecs, quoi.
Voilà, donc ça, c'est là pour la région.
C'est des pôles importants de la région, de développement, tu as raison de le rappeler.
Oui, alors, et en Aquitaine, est-ce que, je crois qu'il y a d'autres départements qui sont actifs aussi, qui organisent des événements
Oui, le département des Landes aussi est très actif avec à Mont-de-Marsan le traditionnel tournoi de Noël organisé par Bernard Bertrand
oui.
et son équipe de bénévoles, très important. Le club Henri IV et Pau Sarail, les clubs de Pau aussi, la région paloise, qui organisent des tournois, des Open, très importants, oui, bien sûr.
Mais l'Open Bayonne
qui est très actif.
L'Open qui reste le plus important en Aquitaine, ça va être celui de Créon quand même
Celui de Créon, je pense, oui.
Ouais,
avec Créon, Naujac, et puis dans le peut-être... oui, voilà.
D'accord. Donc voilà une région qui s'est développée depuis ouais. 30 ou 40 ans régulièrement.
Oui, ouais. On a Agen aussi qui a toujours eu une tradition échiquéenne. Actuellement, c'est la famille Marcignac, père et fils, qui s'occupent du club d'Agen, qui ont succédé aux anciens Le Hété, Lénon, Rosière, tout ça, qui développaient un club d'échecs très important. Ça fait d'ailleurs... ils ont fait 2 ou 3 ans en National 1, là ils sont redescendus en National 2, mais qui montrent leur dynamisme, quoi, bien sûr.
Donc on peut dire maintenant que l'Aquitaine sait jouer aux échecs.
Mais en Aquitaine, oui, tu vois, bon, les départements actuellement les plus un peu en retard, c'est la Dordogne qui est un petit peu en retard. Voilà, sinon les autres départements sont en grand développement échiquien, oui.
D'accord. Alors, j'avais cru comprendre qu'en Aquitaine, il y avait une particularité. Je crois que c'était que l'échiquier l'Aquitaine était un des plus anciens clubs de France aussi.
Oui, je crois qu'il a été créé en 1905, j'en suis pas sûr. Si tu veux, il y a toujours eu en Aquitaine une tradition échiquienne importante. Hein.
Donc, il y a...
Il y a perduré. Ouais. Il y a eu deux organisations de championnat de France. Le dernier en 64 à Bordeaux.
Oui.
Si on ne compte pas celui de Mérignac 71. Eh ben, mais on peut dire que c'est Bordeaux aussi, si tu veux, Mérignac 71.
Oui.
Donc, celui dont je t'ai parlé en début d'interview. Mais sinon, en 64, il y a eu le championnat de France à Bordeaux. Il y en avait eu un avant, je ne sais pas en quelle année. Je ne sais pas si c'est pas 57, un truc comme
ouais, c'est ça. Oui, c'est ça,
c'est ça. Je ne suis plus sûr.
Oui, c'est ça, c'est vers 5. Ouais, ouais.
Et puis... un grand tournoi qui avait été organisé à Bordeaux avec des maîtres, et après la guerre, il y avait un club assez dynamique qui avait fait venir, je crois, des champions pour des simultanés. Hein.
Ouais, ouais.
Et puis avant la guerre, j'avais entendu dire que Alekhine ou des gens comme ça étaient venus faire des simultanés à Bordeaux. Hein.
Ah ben on a vu à Bordeaux maintenant aussi passer, bien sûr, Kasparov, Karpov, Fressinet, Chirov, Adams.
La Guitaine a été... Hein. Dynamisé par deux types qui ont été très importants pour eux, pour ce club, c'était Magrabi Fouad et puis Jean-Marie Matisson, qui dans les années entre 75 et 85 ou 90, pendant ces années-là, pendant une quinzaine d'années, ces deux personnes, puis après Jean-Pascal Blanc lui aussi, c'est ces trois, mais surtout Jean-Marie Matisson et Magrabi Fouad, ont organisé des grands tournois à Bordeaux, des grands Open, les fameuses 36 heures de Bordeaux dans ces années-là, et puis on fait venir Kasparov, Karpov, et sans oublier, tiens, j'y pense maintenant, ouais. Parce qu'il faut lui rendre un hommage aussi, puisqu'il est disparu, c'était Claude Landex, qui ouais. était un handicapé, atteint de mucoviscidose, qui était venu, tu vois, par hasard, à prendre des cours à l'époque d'Athéna, dont je t'ai parlé, l'école d'échecs qu'on avait créée à Saint-Christoly. Et ce gars-là, après, avait créé un club dans la petite ville de Cadillac.
Oui.
Et ce club est monté jusqu'en deuxième division. Tu vois, rien que par la volonté d'un gars qui était dans son fauteuil roulant et qui était tellement passionné qu'il adorait les échecs et qu'il avait impulsé autour de lui plein de choses. Il a fait une simultanée avec Karpov, des choses comme ça, tu vois.
Oui, oui, tout à fait. Oui, oui. Je me rappelle bien de Claude aussi.
Mais voilà. Ouais. Et je pense que tous ces gens-là dont j'ai cité les noms ont tous été des enthousiastes et d'ardents propagandistes du jeu d'échecs dans notre région.
Très bien, mais je crois qu'on a fait le tour ici, là, donc sur l'échiquier bordelais avec toi, Renaud, et puis on a un peu comme ça élargi hein, sur.
Débordé sur les échecs dans la région.
Voilà, sur la région.
Avec d'autres personnes célèbres, oui,
voilà.
Bien sûr.
Donc, écoute, merci de nous avoir accompagnés dans cette découverte du jeu d'échecs à la fois à Bordeaux et puis dans toute la région. Renaud, on espère te revoir un autre jour, une autre fois sur Fréquence Diagonale, bien sûr.
Avec plaisir pour que je vous fasse partager ces connaissances que j'ai du jeu dans la région.
Voilà. Merci beaucoup à toi, merci à tous de nous avoir écoutés pour cet épisode, et puis je vous donne bien sûr rendez-vous pour une prochaine émission de Fréquence Diagonale. En attendant, je vous laisse bien sûr avec notre générique fétiche Broken Embraces. Au revoir, à bientôt.
Au revoir.